Radio 1, premier sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Vaïté Ourari Pambrin.
Allez, c'est parti pour le journal. Vaïté, bonjour.
Yorana Moreto, Yorana à tous. Culture, justice ou encore surf, c'est le menu que vous propose la rédaction de Radio 1 en ce mardi 27 décembre. Énormément de messages pour le départ du Aito John Doom qui nous a quittés dimanche dernier. Vous entendrez notamment les interviews de quelques-uns de ses amis, tout comme Bruno Barrio, délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, ou encore de Tahar Imraea, président de l'église protestante Maori. Nous allons aussi continuer avec nos rétrospectives de cette année. Hier, on vous parlait politique et société. Aujourd'hui, on vous parlera justice et culture avec tous les grands événements de cette année et ceux prévus l'an prochain. Plus léger pour terminer notre journal de ce jour avec la mise en place d'un crowdfunding pour la réalisation d'un documentaire pour mieux connaître nos filles de la glisse.
Et la Polynésie entière donc pleure John Doom.
Après l'annonce du décès de John Aruanui Doom dimanche 25 décembre, les hommages émanant non seulement du politique, mais aussi de la société civile ou encore des associations se succèdent et n'en finissent pas. Bruno Barrio, délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, a rendu à son ami un vibrant hommage à l'homme avec qui il a cofondé l'association Moruroa Etato et avec qui il a mené 30 ans de combat pour la défense des victimes des essais nucléaires.
C'est vrai que c'est bien une triste nouvelle, mais avant de partir en France il y a 30 jours, je savais que c'était inéluctable. Bon, mais c'est bien une grande émotion, une grande tristesse. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, qu'on a travaillé ensemble pour le droit des victimes des essais nucléaires, pour le droit des Polynésiens à obtenir justice et vérité. Donc voilà, c'est une grande émotion de voir partir.
D'autant plus que vous êtes en métropole en ce moment.
Ben oui, je croyais qu'il attendrait, mais non, voilà, je crois que ça faisait quand même des jours qu'il était sur son lit, et je pense qu'il y a eu beaucoup de douleurs, de souffrances, et voilà, ça s'arrête.
Imraya, président de l'église protestante Maui, dont John Doom était l'ancien secrétaire général, c'est une grande figure qui est partie.
Nous l'accompagnons depuis quelque temps dans sa maladie. Nous nous attendions à cette piste issue et bien entendu, nous sommes tous affectés par le départ d'une grande figure au sein de l'église protestante et pas simplement sur le plan local, mais aussi sur le plan régional et international. Pour nous, c'est une perte énorme. On ne peut pas oublier tout le travail qu'il a fait en faveur de la population polynésienne. Et voilà, c'est toute l'église protestante qui est en deuil.
Le corps de John Doom est exposé depuis hier au temple protestant de Tabor à Pirae, où un culte sera donné encore à 13h aujourd'hui. La levée du corps se fera à 14h, suivi de l'enterrement à 16h au cimetière de Papeari.
Tout autre chose, l'association 193 attend toujours sa subvention.
Et Père Auguste Webe Carlson, président de l'association, crie au mensonge. La subvention promise en juin dernier par le président du pays, Edouard Fritsch, n'a selon lui toujours pas été versée. A contrario, une aide substantielle venue de Métropole par le biais d'Aline Archimbault, sénatrice écologiste de Seine-Saint-Denis, est sur le point de l'être, et ce pour financer la Carven, entendez par là la cellule d'accompagnement et de réparation des victimes liées aux essais nucléaires. Le père Auguste Webe Carlson ne mâche pas ses mots.
À l'heure d'aujourd'hui, aucun franc n'est arrivé sur le compte de l'association. Et donc, depuis le 28 juin 2016, ce que le président Fritsch avait qualifié d'une défaillance mémorielle à l'encontre de ma personne, en fin de compte, la défaillance mémorielle, c'est peut-être surtout de son côté.
Comment est-ce que vous prenez cette absence, finalement, de subvention qui vous est arrivée?
D'une certaine manière, ça ne nous étonne pas, parce que nous savons bien que l'association 193 ne plaît pas du tout au gouvernement actuel. Sa méthode de travail est de refusé de recevoir les associations en conflit avec le pays. Mais maintenant, il faut qu'ils soient honnêtes aussi et ne pas annoncer des nouvelles qui sont complètement fausses à l'encontre d'associations auxquelles il n'a pas d'intérêt à travailler avec.
La cellule d'accompagnement et de réparation des victimes liées aux essais nucléaires ouvrira ses portes le 26 janvier prochain. Et pour rappel, l'objectif principal de la CARVEN est de sensibiliser la population et de l'aider à constituer les dossiers de demande d'indemnisation.
Et puis c'est la période, donc on poursuit nos rétrospectives de l'année 2016 avec la justice et les atteintes à la probité toujours aussi nombreuses.
Après la politique et la société, hier ce matin, flashback sur l'actualité judiciaire. Le ton a été donné dès janvier par le nouveau procureur général François Badi qui insistait sur sa volonté de sensibiliser et de former les élus et les agents du pays et de l'État contre les atteintes à la probité publique. Il faut dire qu'avec 14 affaires judiciaires impliquant des hommes politiques en 2015, ce travail paraissait indispensable. Et si les juridictions polynésiennes ont fini par s'unir, les affaires politico-judiciaires n'ont pas pour autant cessé de défrayer la chronique. Retour sur une année très chargée avec Cédric Valax.
2016 a donc commencé avec la relaxe de Bruno Marti, poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Le directeur du laboratoire des TP et ancien ministre de l'équipement est par contre toujours sous le coup d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt dans une affaire de passation de marché entre la TEP qu'il dirigeait et son ancienne société. En février, Gaston Flosse a été définitivement condamné à 18 mois de prison avec sursis, 2 millions de francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité dans l'affaire du CED, une peine qui pourrait le priver des territoriales. Gaston Flosse également condamné dans l'affaire de la vaisselle de la présidence. Lui et sa compagne ont écopé d'une simple peine d'amende. Le parquet a fait appel de cette décision. Dans l'affaire Anoa Nuraro, le parquet général de Papeete a formé un pourvoi en cassation après la relaxe de Gaston Flosse et de Robert Vann. Gaston Flosse n'en a pour autant pas fini avec la justice. Gaston Flosse également sous le coup d'une enquête préliminaire concernant la comptabilité de la SCI de son ancien hôtel particulier rue de Ranelagh à Paris.
La justice a décidément eu beaucoup de travail avec nos élus, même si certaines affaires seront rejugées.
Très attendu, le retentissant procès de l'affaire Alcatel-Onotoa s'est terminé sur une relaxe générale. Là encore, le parquet a fait appel. Le président du pays n'est pas non plus épargné par la justice. Édouard Fritch a été condamné pour la première fois au pénal à 2 millions de francs d'amende pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire Radio Maui. Autre dossier attendu, celui de l'affaire Team Lead qui sera rejugé en appel. En première instance, le député Jean-Paul Touaïva avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis et surtout 5 ans d'inéligibilité. Jean-Paul Touaïva visé par une enquête préliminaire dans une affaire similaire. Plus récemment, l'ancien maire de Maïna, Émile Vernodon, a écopé d'une peine d'un an de prison et 1 million de francs d'amende dans l'affaire de la gestion des déchets verts de la commune de Maïna. Le président du syndicat pour la promotion des communes et maire de Toumara, Cyril Tétouanoui, a lui été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour favoritisme. Cyril Tétouanoui qui risque également 5 ans d'inéligibilité dans une affaire de trafic d'influence dont le délibéré est attendu pour le mois de février prochain, peu avant. On saura si Gaston Tongsang est inéligible dans l'affaire des emplois fictifs de sa présidence.
Eh ben, c'est chargé tout ça, panier de crabe.
Je suis d'accord avec toi.
Oui, c'est ça. Autre rétrospective, mais culture cette fois-ci, avec le Hori Tahiti, qui est au devant de la scène.
Et Valentine Bluet a notamment mis en exergue la danse traditionnelle avec tous les différents événements, tels que le Huratapairu, les 30 ans de Hori-Tahiti, ou encore le record du monde du plus grand rassemblement de Hori-Tahiti.
Dès le mois de janvier, la célèbre chef de troupe Macau Foster a créé l'événement en rassemblant 2980 danseurs sur le terrain du golfe d'Atimaonu. Ce jour-là, la Polynésie française a battu le record du monde du plus grand nombre de danseurs de Hori Tahiti. En avril, c'est aussi sur le Fenua qu'est organisée la première Coupe du monde de Hori Tahiti. Et comme tous les ans, l'année a été marquée par les festivités du Heiva. Un vent de renouveau a d'ailleurs soufflé sur Toata avec la consécration de 2 jeunes formations. En Huratou, c'est la troupe Hiti Reva qui a reçu le prix Madeleine Maua et en Hura Avatou, Tahiti Yarurutunoa a bluffé le public et le jury. Après le Heiva, place au Hura Tapeiru et c'est Manu Hiva qui a remporté le grand prix parmi 27 formations de danse traditionnelle. Et si l'année 2016 a fait de la place pour les nouveaux groupes, elle n'en a pas oublié les plus anciens et réputés. Au Tahiti de Marguerite Lay a ainsi fêté ses 30 années d'existence.
Mais la culture ne s'arrête pas seulement au Hori Tahiti. Il y a eu aussi cette année le premier festival polynésien Tunisie, témoigne Noui Ahiva, une exposition au musée du Quai Branly ou encore à venir le classement du Marae Taputapuatea à l'UNESCO.
Dernièrement, le ministre Helemoana Mamatoeyahutapu a commencé les démarches pour le classement du Oriteiti au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un classement qui fait écho à celui du Marae Taputapuatea, dont le dossier de candidature a été officiellement déposé auprès de l'UNESCO en janvier. Il a aussi été beaucoup question de la création du futur centre culturel annoncé par le président de la République en février. Tahiti a également été le cœur de la culture du triangle polynésien avec le premier festival Polynésia Te Moananui Ahiva. L'archipel des Marquises s'est quant à lui exporté et exposé au musée du Quai Branly. La 5e édition du festival Polynésia Tatou a encore été un franc succès, si bien que le tatouage pourrait faire son entrée prochaine au centre des métiers d'art. Côté cinéma, le grand prix du FIFO a été attribué au documentaire australien Another Country. 2016, c'est aussi le début du tournage du biopic sur le peintre Paul Gauguin, qui sera interprété par l'acteur Vincent Cassel. Et oui, rien que ça. La culture contemporaine est aussi d'actualité avec le festival Onohou, qui a redonné une fois de plus de la couleur à nos murs. Tahiti, qui a maintenant son propre musée du street art. Papeete, capitale du street art et du Holy Tahiti. Oui, c'est possible.
Merci Valentine. On va te ramener Vincent Cassel en studio. Je te souhaite, elle est contente. T'étais tout ému là.
Ouais.
Allez, on termine avec un documentaire pour connaître nos surfeuses, nos ondines.
Et oui, pour la réalisation de ce documentaire, un crowdfunding, entendez par là un financement participatif, a été mise en place par le site allonsrider.fr. Ce documentaire s'intitulera Tahiti et ses surfeuses oubliées. Et cela permettra surtout de mettre en avant le talent des filles de la glisse, souvent cantonnées aux photos de leur plastique parfaite. Et il reste encore 26 jours pour faire un don et c'est sur le site ecosea.com.